Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et à 9h, le point sur l'info, c'est avec Aude Verruchio. Bonjour Aude.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. L'enquête avance ce matin 24 heures après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Un suspect a été interpellé hier soir. Les 27 réunis en sommet et au bord de la crise de nerfs autour du plan de relance de l'économie européenne. Et puis le foot post-coronavirus, 7 Français sur 10 pas forcément pressés de reprendre le chemin des tribunes. Résultat du baromètre Odoxa pour RTL et Groupama.
24 heures après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Une première piste à suivre donc pour les enquêteurs.
Un homme d'origine rwandaise a été placé en garde à vue hier après-midi. On l'a appris ce matin. On rappelle que la piste criminelle est privilégiée et une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Guillaume Chiez, on en sait un peu plus ce matin ?
Oui, ce suspect âgé de 39 ans a été interpellé hier à 16h dans son foyer de travailleurs. Selon nos informations, cet homme ressortissant rwandais, inconnu des services de police, est bénévole au sein du diocèse de Nantes. Une situation qui pourrait expliquer le fait que les enquêteurs n'ont relevé aucune trace d'effraction au niveau de la cathédrale. Concernant le mobile de ce suspect, il reste encore flou à l'heure qu'il est. On sait que les jours précédant l'incendie, cet homme se serait plaint avec véhémence auprès de ses proches de sa situation. Son titre de séjour émis en 2012 n'était plus valable depuis plusieurs mois. Dans sa colère, il n'a en revanche, semble-t-il, jamais évoqué la possibilité d'incendier la cathédrale. Le bénévole est désormais en garde à vue dans les locaux de la PJ de Nantes. Une garde à vue qui pourrait être prolongée jusqu'à demain après-midi.
Guillaume Chiez du service police-justice en direct pour RTL. Des experts techniques et scientifiques de la police judiciaire sont en route pour Nantes, précisément ceux qui avaient travaillé sur l'enquête de l'incendie de Notre-Dame de Paris pour leur prêter main forte. À Nantes, en revanche, le bâtiment ne menace pas de s'effondrer. La structure n'est pas touchée, mais à l'intérieur, le diocèse déplore de lourds dégâts. Des vitraux explosés sous la chaleur, un orgue vieux de 400 ans, complètement détruit dans la nef, et un tableau du 19e siècle atteint par les flammes. De nombreux Nantais multiplient les hommages depuis hier soir, comme vous l'avez constaté, Christian Panvert.
Le parvis de la cathédrale est toujours sécurisé, des camions de pompiers sont encore sur place, la façade de l'édifice est noircie par les flammes et la grande verrière a disparu. Ludovic habite un appartement qui donne sur le monument.
On prend un gros coup sur la tête dès le matin.
Il a du mal à réaliser que l'orgue vieux de 400 ans ne sonnera plus.
L'orgue de Saint-Pierre sonnait magnifiquement bien et c'était l'âme, c'était le cœur. Lorsque les organistes venaient entre guillemets s'entraîner, ben j'y allais. Et puis de la maison, on l'entendait, donc ça fait partie de notre quotidien. D'entendre les grandes orgues sonner quand on a les fenêtres ouvertes en été, ça a toujours fait partie de notre quotidien tous les jours, donc c'est très 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 dur.
Antoine dirige le bar tabac relais Nantes Cathédrale, il veut rester optimiste.
Moi ça me fait tellement de peine de voir ma cathédrale comme ça, mais ça me fera tellement de bien de voir ces gens qui viendront de l'extérieur. Et je pense que ça peut resserrer encore plus les liens parce que c'est un très très beau quartier.
Ludovic et Antoine attendent beaucoup de l'enquête. Ils espèrent qu'on saura bientôt pourquoi leur cathédrale a été endommagée.
Christian Panvert depuis le parvis de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes pour RTL. Le gouvernement promet de reconstruire rapidement la cathédrale. L'État prendra sa part dans les dépenses, a promis le Premier ministre en déplacement hier. L'équation est simple, pas de masque, pas de course, port obligatoire dès demain dans tous les lieux publics fermés. Il sera nécessaire pour entrer par exemple dans les supermarchés, les marchés couverts, la poste ou encore les banques. Confirmation donnée hier par le ministre de la Santé, Olivier Véran.
L'ombre d'une deuxième vague redoutée en France, d'autant que chez nos voisins espagnols, la capitale catalane se reconfine.
De nombreux politiques l'ont répété pendant le confinement. Souvenez-vous, l'épidémie de coronavirus n'a pas de frontières. Dans les villages frontalier tout près de l'Espagne, des habitants se questionnent. Faut-il limiter l'entrée des touristes? Faut-il fermer carrément le passage? Ou bien faire des contrôles avec des tests de dépistage systématiques? Les avis sont partagés à Vernay-les-Bains, mais l'inquiétude est bien là. Reportage de Pierre Collat.
Emmanuel tient une épicerie à Vernay-les-Bains, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Il n'est pas très rassuré.
Le cluster espagnol, c'est forcément très inquiétant parce qu'on a beaucoup de gens qui se promènent et beaucoup de gens se sont libérés, donc ont été en Espagne parce que c'est forcément moins cher, parce que c'est forcément sympa, parce que c'est forcément, on a envie de prendre aussi un peu d'air et puis de respirer. C'est difficile après de retrouver d'où ça vient et en fait après tu peux en avoir partout.
Pour Henri Guittard, maire de cette commune au pied du Canigou, il ne faut pas avoir peur de l'Espagne, il faut même prendre exemple.
Moi-même, j'étais en vacances il y a une semaine à Rosas, c'est juste à côté de la frontière française. L'Espagne est beaucoup plus rigoureuse que les Français. Dans les supermarchés, dans les magasins, on ne peut pas rentrer sans le masque.
La municipalité anticipe. À côté du maire sont posés deux gros cartons. À l'intérieur, 1500 masques.
On s'est approvisionné au niveau des masques. On a tout. On est prêt, quoi. On est prêt si jamais une seconde vague devait démarrer. On a tout ce qu'il faut, on ne sera pas pris au dépourvu comme la première fois.
Tout est prêt pour éviter une seconde vague. Le village espère désormais que les touristes seront de retour avant la fin de l'été.
Pierre Collat dans les Pyrénées-Orientales pour RTL. En Guyane, la situation sanitaire s'améliore avec une baisse du nombre des contaminations et des admissions à l'hôpital. Dernier chiffre dans Le Monde communiqué ce matin, le coronavirus a fait 600 000 morts selon le bilan de l'AFP.
Troisième jour de discussion à Bruxelles à propos du plan de relance de l'économie européenne. C'est particulièrement compliqué. On en parle dans un instant.
RTL Matin. Dominique Tenza. RTL Matin.
Des discussions plus difficiles que prévu donc à Bruxelles, Aude. Selon le chef du gouvernement italien, les concertations reprennent à midi à propos du plan de relance de l'économie.
Depuis hier, les 27 sont dans l'impasse sur la voie d'un compromis, puis subitement, des portes qui claquent. En coulisses, le couple franco-allemand tente de convaincre les États frugaux comme les Pays-Bas et le Danemark pour débloquer ces 750 milliards d'euros. Lionel Gendron, les chefs d'État sont au bord de la crise de nerfs.
Oui, comme vous le disiez, les portes claquent. Certains les prennent dans la figure, mais voyons le bon côté, elles restent ouverte. Hier, la fièvre était pourtant un peu retombée avec cette nouvelle proposition. On garde le plan à 750 milliards, mais avec plus de prêts et moins de subventions. La différence est importante. Les prêts sont remboursables par les États bénéficiaires, les subventions financées par la dette commune. Et c'est bien ce qui chagrine le Premier ministre néerlandais. Pour lui, avec ce plan, on entre dans une nouvelle ère, celle de l'endettement à l'infini. Mark Rutte veut donc un droit de regard sur l'utilisation de ces milliards. C'est ce qui avait été fait pour la Grèce il y a 10 ans. L'Italie et l'Espagne, principaux bénéficiaires de l'aide, s'y opposent. La France et l'Allemagne également. Hier soir, un membre de la délégation allemande disait ne pas savoir si on allait trouver une solution. Reprise des discussions par petits groupes dans quelques minutes, puis réunion plénière à midi, a priori. En cas d'échec, un nouveau Conseil européen pourrait être convoqué à la fin du mois ou à la fin de l'été, si les désaccords sont trop grands.
Les explications de Lionel Gendron pour RTL. À l'échelle mondiale, le G20, lui, est en bonne voie pour obtenir un accord. Les ministres des Finances et les chefs de la Banque Centrale ont tenu une réunion hier pour prolonger en 2020 le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres. Selon les Nations Unies, le constat est clair. 100 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison de la pandémie et d'ajouter « Nous avons été mis à genoux par un virus microscopique, signe de la fragilité de notre monde. »
Les sports à présent avec cette question. Faut-il accélérer la reprise des compétitions en football ?
La finale de la Coupe de France aura lieu vendredi au Stade de France. Le PSG affrontera Saint-Etienne devant 5000 supporters. C'est le maximum autorisé. Qu'en pensent les Français ? D'après un baromètre sport Odoxa pour RTL et Groupama, ils sont assez réservés sur le sujet, Eric Silvestro.
Effectivement, le football continue de diviser dans notre pays. Si 62% des amateurs de ballon rond sont impatients que les compétitions reprennent, 73% des Français le sont beaucoup moins. Même constat concernant le nombre de spectateurs autorisés dans les stades. Près de 7 sondés sur 10 souhaitent que la jauge à 5000 personnes perdure. Et même les fans de foot sont prudents puisque 47% seulement seraient favorables à la présence de 25 000 supporters au Stade de France. Au niveau des pronostics, en revanche, pas de surprise, le Paris Saint-Germain est ultra favori, 80% pour la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne. Avantage aussi pour le club de la capitale, 71% en Coupe de la Ligue, même si Lyon grappille 28% des suffrages.
Éric Silvestro pour RTL. Quelques résultats en football. Saint-Etienne, justement, s'est incliné face à Anderlecht à 2 reprises en match amical, 2-1 puis 1-0 hier. Le LOSC, lui, s'est imposé face aux Belges de Moucron, 2-1. Les joueurs lillois touchés par la Covid-19, 3 d'entre eux, Ikoné, Bamba et Renato Sanchez ont contracté la maladie pendant leur semaine de congé, mais ils seraient bientôt guéris et prêts pour revenir à l'entraînement, selon Christophe Galtier. Sur la route, vous étiez nombreux hier. Pas de panique, aujourd'hui, bison futé voie vert dans le sens des départs. Certains ont peut-être prévu d'emmener leur vélo adulé des Français pendant le confinement. Mais attention, au volant ou au guidon, il y a des règles de sécurité, notamment le port du casque, Christophe Bourreau.
Oui, ce casque est obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 ans, mais il est fortement conseillé de le porter à tout âge, selon Thomas Thiolin de la prévention routière.
Quel que soit son âge et le trajet effectué, c'est important de mettre un casque. Il faut savoir qu'il réduit par 3 les fractures de la boîte crânienne en cas d'accident. Et c'est finalement pas si contraignant que ça de le porter.
Porter le casque, c'est aussi montrer le bon exemple.
C'est aussi une mesure pédagogique qui permet aux adultes de montrer l'exemple, notamment à leurs enfants.
Autre accessoire de sécurité, le gilet rétro-réfléchissant, obligatoire hors agglomération et de nuit, vraiment, vraiment efficace pour être bien vu.
Alors, si vous ne portez pas de gilet rétro-réfléchissant, vous n'êtes visible qu'à 30 mètres par un automobiliste, notamment la nuit, mais à plus de 150 mètres si vous en portez un. Donc on voit bien l'intérêt de porter un gilet pour être visible par l'ensemble des automobilistes, notamment en situation nocturne.
Enfin, comme en voiture, hein, vous devez respecter les règles. Téléphoner à vélo, par exemple, est non seulement dangereux, mais interdit. Alors bien sûr, pas de retrait de points sur le permis, mais vous risquez tout de même une amende de 135 euros.
Christophe Bourou pour RTL. Et puis donc, l'heure des vacances, des vagues, des embruns. Partons sur la plage du Sillon de Saint-Malo, élue plusieurs fois plage préférée des Français par le site de voyage TripAdvisor. Qui a dit qu'il n'y avait pas de soleil en Bretagne ? Reportage de Nicolas Bobby.
Clément, 8 ans, est heureux comme un poisson dans l'eau sur la plage du Sillon.
Je fais du bodyboard. On a une planche et on glisse sur l'eau. Quand il y a beaucoup de vagues, je m'éclate.
La Manche est à 18 degrés.
Bah là, elle est un petit peu fraîche au début, mais après, une fois dedans, ça va. C'est du plaisir.
Ses deux amis disputent une partie de pétanque.
J'ai 2 points. À toi maintenant de te battre.
Ok, c'est bon. On y va. C'est parti. À marée basse, c'est bien parce que le sable, il est plus ou moins mou, il dure et on peut soit pointer, soit tirer.
Je fais 600 km pour venir puisque je viens des Ardennes et je trouve cette plage merveilleuse.
3 km de pur sable, quelques algues et une vue imprenable sur l'Intramuros.
C'est très convivial, très familial. Vous avez la vue sur l'île Sésambre.
Les nageurs sauveteurs CRS et Corentin de la SNSM surveillent la baignade.
C'est vrai qu'il faut faire attention un petit peu au courant. C'est un peu la plage du bonheur, totalement, oui.
Sur le front de mer, on peut admirer les belles villas malouines.
Nicolas Bobby à Saint-Malo pour RTL.
Et puis un talent que je viens de découvrir, c'est Jean-Sébastien qui sait faire
c'est
la mouette.
C'est moi qui fais les mouettes.
C'est vous la mouette du reportage de Nicolas Bobby. Faut voir la vidéo, tout ça en ouvrant la bouche, c'est assez formidable. Allez, les cours.